Le père Henri est dominicain. Né en 1911, il vit maintenant fort pauvrement à Paris, après avoir été prieur au Maroc et en France, professeur à l'Institut catholique de Paris et prédicateur réputé à travers le monde. Le père Henri a fondé une importante revue, Paroles et Missions, et publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, Vivre et combattre la pauvreté, est paru en 1986. Le père Marcel Henri est interviewé à Paris par Marcel Brisebois.
Père Henri, vous venez tout juste de publier un ouvrage intitulé « Vivre et combattre la pauvreté ». Le titre en lui-même est déjà étonnant, mais si je prends simplement le mot « pauvreté », dans le langage de l'Église, dans le langage des ecclésiastiques, on était plutôt habitué à entendre « bienheureux les pauvres ». Alors pourquoi combattre la pauvreté ?
Ah, l'Église a toujours aussi combattu la pauvreté. Elle a essayé de relever les pauvres, de sortir les pauvres de leur pauvreté, de leur misère. Celui qui meurt de faim, celui qui n'a pas de logement, etc., l'Église a toujours essayé de l'aider. Il y a des caritas dans le monde entier, il y a des miséréores, il y a des adveniates, il y a des secours catholiques, partout.
Oui, mais alors c'est le monde, c'est la condescendance, à ce moment-là.
Ah, vous dites au monde condescendance, mais ce n'est pas le sens traditionnel.
Non.
L'Église aide en partageant, en essayant de demander. Depuis l'origine de l'Église, il y a des diacres dont le rôle propre, c'est justement le secours des pauvres. Les diacres, dans les premiers siècles, avaient un rôle extrêmement important, étant donné qu'ils étaient chargés des finances de l'Église pour les pauvres.
Dans cette perspective-là, Père Henri, il s'agit donc de partage, c'est-à-dire, au fond, que les riches soient moins riches pour que les pauvres soient moins pauvres. Alors que, dans une perspective politique, on voit les choses différemment. On voudrait que les pauvres s'enrichissent, non seulement dans nos pays, mais aussi dans les pays dits du tiers-monde.
Oui.
Il y a donc un combat politique qui souvent est occulté, qui a été occulté par le christianisme.
Occulté par le christianisme ?
Oui.
Pourquoi occulté par le christianisme ?
Parce qu'on enseignait la résignation aux pauvres.
Ah ! C'est-à-dire que on enseignait à chacun, n'est-ce pas, d'accepter la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous devenions ce que nous sommes appelés à devenir. Et par conséquent, que nous devenions davantage hommes. Et on ne peut pas devenir davantage homme si on n'a pas les moyens de le devenir. Nous sommes chair et esprit. Si je ne mange pas, eh bien, ça m'a affamé la pointe d'oreille. Je ne peux pas apprendre, je ne peux pas étudier, je ne peux pas réfléchir, etc. Et si je ne sais pas lire, je ne peux pas me cultiver. Par conséquent, tout cela, l'Église l'a favorisé, a aidé à le faire. Mais il est certain que la résignation, ça ne peut pas se placer à ce niveau-là. C'est comme pour la souffrance. On doit lutter contre la souffrance jusqu'au bout. Et puis, là où on ne peut plus l'éliminer, dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». C'est facile à dire, bien sûr. Mais enfin, je dis la théorie, mais même le Christ a dit « Père, que ce calice s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite ». C'est ce que doivent penser les malades, les souffrants, ceux qui sont dans l'épreuve, etc. Il faut toujours chercher à en sortir. Il faut toujours chercher à sortir de la pauvreté. Pour les pauvres, il n'y a pas de question. La première chose, c'est d'en sortir. Et dans toute la mesure où on ne peut pas en sortir, accepter que la volonté de Dieu soit faite.
La résignation vient en dernier lieu. Elle n'est pas au point de départ.
Oui, puis je n'aime pas beaucoup le mot résignation, parce que le mot résignation signifie qu'on a tout lâché, qu'on a baissé les bras. Or, on doit toujours, en même temps qu'on accepte la volonté de Dieu, essayer de lutter contre la pauvreté que l'on a. La volonté de Dieu est qu'on lutte contre pour devenir ce qu'on doit devenir.
Si je vous comprends bien, c'est d'abord aux pauvres eux-mêmes à lutter contre leur pauvreté.
Oui, certainement, certainement, certainement. Les pauvres, ben, spontanément, ils le font, ils cherchent à sortir de leur pauvreté. Ben, pour eux, c'est le problème. Je me souviens, dans un congrès sur la pauvreté, n'est-ce pas, chacun se demandait comment être pauvre dans l'Église, comment les religieux peuvent-ils mener leur vie de pauvreté, etc. Et puis, un Africain a dit, vous savez, c'est très joli de dire ça, mais pour nous, les pauvres, la seule chose qui compte, c'est d'en sortir. D'en sortir. Voilà, ça c'est vrai, c'est la pauvreté. Et celui qui n'a pas lutté contre la pauvreté, ne sait pas ce que c'est que d'être pauvre.
Mais alors vous-même, Père Henri, comment pouvez-vous parler de pauvreté? Vous appartenez à un ordre qui vous nourrit, qui vous loge, qui vous donne des vêtements, etc. Donc vous n'êtes pas vraiment un pauvre.
Eh bien, justement, c'est la question. Ça, vous posez la question qu'il faut poser, c'est sûr. C'est très vrai, c'est très difficile. Très difficile. Père Gutiérrez dit, je l'ai mis en exergue de mon livre, n'est-ce pas, le pauvre c'est celui qui n'existe pas. Et voilà. Et il dit, moi, je suis prêtre, je suis théologien, je suis intellectuel, j'ai de la culture, etc. J'existe. Mais le pauvre, c'est celui qui n'existe pas. Alors, le religieux, par définition, eh bien, il existe. Il existe, il a de la santé, généralement. S'il est trop malade, on ne l'accepte pas en religion. Il sait lire et écrire. S'il ne sait pas, aujourd'hui, on retarde son entrée en religion, jusqu'à temps qu'il sache, on lui fait passer des examens, etc. Il a des relations humaines, il a un bon rapport à autrui, généralement. Il a de l'affection, il a été aimé, etc. Enfin, tout ce dont le pauvre souffre. Alors, il a un profil de riche. C'est nécessaire. Comme le Christ, si j'ose dire, qui, en vertu de son humanité, de son cœur, de son intelligence, avait un profil de riche. Hein? Si j'ose dire. Il s'est fait pauvre, il est venu au milieu des pauvres. Alors, pour nous, c'est difficile. Mais nous venons au milieu des pauvres, justement, d'abord parce que le Christ s'est fait pauvre, et puis ensuite pour venir en aide aux pauvres, pour vivre avec eux.
Vous allez un peu vite pour moi, Père Henri, parce que vous venez de dire que le Christ était au fond un riche, il avait un profil de riche, et vous ajoutez, il s'est fait pauvre. Et si j'ai bien compris, vous demandez un peu la même chose aux chrétiens qui pourraient être riches, vous leur demandez de se faire pauvre. Alors, oui. Je voudrais que vous m'indiquiez comment peut se faire ce passage.
Eh bien, c'est saint Paul qui le dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, n'est-ce pas, et que le Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. C'est subtil, mais au fond, il veut dire que le Christ qui était Dieu s'est fait homme pour nous enrichir en se faisant homme de sa divinité. Et de tout ce que sa divinité donne à son humanité, de la qualification humaine que donne sa divinité. Alors, pour nous, en imitant le Christ, nous pouvons devenir pauvres, d'abord, si je puis dire, en nous contentant du nécessaire, sans ajouter ce qui est superflu, et d'y être très attentif. D'autre part, en partageant tout ce dont nous disposons, et puis en nous rapprochant des pauvres. C'est toujours un mauvais signe pour une communauté religieuse lorsqu'elle n'a de relation qu'avec les riches. Et c'est un bon signe lorsqu'elle a des relations parmi tous les pauvres. Généralement, c'est ce qui se passe aussi.
Ça, c'est vrai, Père Henri, pour les religieux. Mais les chrétiens mariés, les chrétiens qui ont des enfants, est-ce qu'il n'est pas normal qu'eux désirent avoir une certaine aisance, une certaine richesse, accroître le patrimoine afin de donner davantage à leurs enfants? Alors, ce discours tenu souvent par des religieux sur la pauvreté a de quoi parfois choquer beaucoup de chrétiens fidèles.
Oui, mais n'est-ce pas, il est normal. Il est normal que celui qui est père de famille pense d'abord à ses enfants. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce serait un désordre s'il commençait par penser aux petits Chinois qu'il ne voit pas, qu'il ne connaît pas, qui sont loin et qui n'ont peut-être pas les besoins qu'il croit qu'ils ont, au lieu de penser d'abord à ses enfants. Ou bien le père de famille ou la mère de famille qui serait tout le temps tiré à U et à Dia parce que elle s'occuperait de mouvements apostoliques ou d'autres mouvements spirituels et qui ne penserait plus à sa maison. Voilà. Saint Paul dit à son disciple Timothée, celui qui ne s'occupe pas de ceux qui sont dans sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle, qu'un incroyant. Il est pire qu'un incroyant. Bon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais l'idéal, c'est le partage. C'est le partage. Dans la Bible, dans la Torah, dans la loi de Moïse, il dit « Vous n'aurez pas de pauvres parmi vous. » Il n'y aura pas de pauvres. Par conséquent, il faut que ceux qui ont moins, on pense à eux, on leur donne. Il faut partager. Et alors, bien sûr, cela n'a pas duré. Dans le désert, il n'y avait pas de pauvres, mais quand on est arrivé dans les villes de Canaan, il y en a qui sont enrichis, d'autres qui sont appauvris, etc. Alors cette loi est devenue comme une espérance messianique. Et on pensait que au dernier jour, eh bien, il n'y aurait pas de pauvres et chacun aurait selon ses besoins.
Mais Père Henri, est-ce qu'il n'est pas normal, quand même, je reviens sur ma question, est-ce qu'il n'est pas normal pour une femme, un homme, de vouloir s'enrichir, de vouloir devenir plus riche, d'accroître son bien, par son travail, sinon, on devient des gens, finalement, parfois sans initiative, sans dynamisme, sans audace, n'est-ce pas? On est satisfait, content, parce qu'on a fait juste ce qu'il fallait.
Ah non, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de savoir la richesse pourquoi. La richesse pourquoi? Et si c'est pour le service de l'humanité, si c'est pour moi tout seul, coupé des autres, pour augmenter mon pouvoir, ma puissance, mon autorité, etc., c'est pas très chrétien. Mais si c'est pour que tout ce qui m'environne, tout ce qui est lié à moi, tout ce qui est en relation à moi, etc., s'enrichisse, c'est très bien. C'est très bien. Le médecin sans frontières qui est riche, qui va au milieu des pauvres et qui partage tout avec eux et qui fait qu'il y a une montée générale du village où il se trouve avec lui, ça c'est très bien. Et il est heureux parce que d'autres avec lui, parce qu'au moins il a fait servir son argent. C'est le but. C'est le but. Le partage, voilà, le but c'est le partage pour l'enrichissement collectif, l'enrichissement global de l'humanité. Et l'enrichissement...
Pas simplement en termes d'avoir, mais en termes d'être.
En termes d'être, voilà. L'enrichissement intellectuel, spirituel, culturel, etc., etc. Mmh. Que nous partageons tout. C'est pas normal que certains aient tout pendant que d'autres n'ont rien. Qu'il y ait des îles d'opulence au milieu d'océans de misère.
Mmh. Et c'est pas normal, si je vous comprends bien, qu'on s'en remette pour cela uniquement à l'État. Qu'on dise c'est l'affaire de l'État, voilà. Et alors dormons bien tranquille quand on a payé ses impôts.
Voilà. C'est pas normal à deux points de vue. D'abord parce que le citoyen doit surveiller tout le temps ce que fait l'État et corriger sa politique ou son économie, n'est-ce pas? Et puis d'autre part parce que en dehors de ce que peut voir l'État, c'est pas à l'État de tout faire. Nous ne sommes pas des assistés pour tout, mais c'est à chacun à regarder à gauche et à droite. Et il n'use pas légitimement et honnêtement de tout ce qu'il possède, même légalement, etc. S'il ne jette pas un coup d'œil à gauche et à droite pour voir ceux qui en auraient un urgent besoin. Mmh. En temps de guerre, par exemple, si quelqu'un a plein de réserves dans ses caves et que tout le monde autour de lui crève de faim, n'a plus rien, ne peut plus rien se procurer, eh bien, il pêche. Et c'est ce qu'on dit à l'envi tous les pères de l'Église, les saints Léon, les saints Basile, etc. N'est-ce pas? Les chaussures dont tu ne te sers pas dans ton placard, tu les voles. Elles appartiennent à celui qui n'en a pas. Les évêques canadiens ont eu une bonne formule, je crois que c'est en 45, excellente formule. Les terres sans hommes appartiennent aux hommes sans terre. Voilà. Mm-hmm. C'est un symbole de la vue chrétienne des choses.
Oui.
Dieu a remis le monde et les biens du monde et les biens de la terre à tous les hommes, et les biens de la terre appartiennent d'abord à tous les hommes, et secondement à ceux qui ont un droit de propriété sur leurs biens.
Donc, si je vous comprends bien, le discours que vous voulez tenir sur la pauvreté n'a pas pour but de magnifier la pauvreté, il a pour but, au contraire, n'est-ce pas, d'instaurer un certain dynamisme à l'égard des biens de la terre pour que ceux-ci s'accroissent et soient mieux partagés. Est-ce que c'est
voilà.
bien ça?
Voilà, voilà. Le but, ce n'est pas de supprimer la pauvreté, c'est le partage et que tous les humains deviennent plus humains. N'est-ce pas? Il y a une injustice et une anomalie et une perte prodigieuse, un gâchis prodigieux, de laisser d'immenses parties de l'humanité en jachère, non cultivées. de gens qui ne savent pas lire, pas écrire, qui ne peuvent pas aller dans les musées parce que les musées n'existent pas chez eux, et qui ne peuvent pas avoir de radio, de télévision, de livres, etc., etc. Mais nous n'imaginons pas ce que nous perdons. N'est-ce pas, les artistes en puissance potentielle qui seraient là-dedans, si j'ose dire, cette humanité en jachère et qui ne sont pas cultivés, qui ne le deviendront jamais. Les ingénieurs qui ne le deviendront jamais. Les écrivains, etc., etc., les techniciens, etc., qui ne le deviendront jamais. L'humanité perd un potentiel fantastique, fantastique, en laissant ces parties d'humanité en jachère à côté d'elle. Alors c'est ça le but, c'est que tous ce capital d'humanité qu'il y a sur Terre soit exploité au maximum.
Donc non seulement diminution de la pauvreté dans nos sociétés occidentales, mais diminution aussi de la pauvreté, combat contre la pauvreté à travers le monde.
Combat contre la pauvreté à travers le monde, voilà.
Mais il reste pas moins qu'actuellement le système économique est tel, dit-on, que les nations riches ne cessent de s'enrichir et que les nations pauvres ne cessent de s'appauvrir.
Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation pareille, surtout que les chrétiens ont souvent l'impression d'être totalement impuissants.
Ah, ben ça c'est vrai, c'est le drame. C'est inévitable que l'échelle des richesses et des pauvretés se distende de plus en plus. C'est inévitable. C'est comme l'échelle de la vie. Ça commence par une petite bactérie dans l'océan il y a quelques milliards d'années. Et puis ça produit des vers, puis les poissons, les protozoaires, enfin tout jusqu'à l'homme. Et quand on est arrivé à l'homme, on a franchi des millions et peut-être des milliards de degrés. Eh bien, pour l'humanité, lorsqu'elle a commencé, c'est la même chose. Lorsqu'elle a commencé, il n'y avait pas de pauvreté, puisque tout le monde était égal. Si démunis qu'on soit, il n'y avait pas de pauvreté. Au Mato Grosso, dans certaines tribus, comme les Cribri, où le père Caron a été missionnaire, n'est-ce pas, eh bien, on peut dire qu'il n'y a pas de pauvreté, puisque bon, tout le monde vit à peu près nu, il n'y a pas de culture encore, etc., tout le monde vit égal. Mais à partir du moment où on commence, n'est-ce pas, où on a inventé l'écriture, où il y a des écoles, où il y a des conforts, etc., les uns apprennent et les autres n'apprennent pas, les autres réussissent à leurs examens, d'autres ne réussissent pas, les uns acquièrent plus tard une voiture, les autres n'en ont pas, etc. Enfin, plus le progrès augmente, plus la possibilité de s'enrichir augmente, plus la distance croît entre les derniers degrés des humains, les Indiens, les Mato Grosso, et puis les Américains, par exemple.
Est-ce que vous me dites que l'inégalité entre les hommes est inévitable ?
Ah oui, absolument. Absolument inévitable.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un combat, justement, par ailleurs, à mener pour l'égalité ?
Eh bien, voilà.
Il faut... Alors, comment maintenir ces deux choses-là, si elles doivent être maintenues ?
Voilà. Le drame, c'est que certains s'enrichissent et grimpent, en ne regardant plus en arrière et en laissant tomber ceux qui ne grimpent pas avec eux, les derniers de l'échelle. On les laisse. On les laisse pourrir dans leur misère, leur pauvreté, dans les bidonvilles, dans les choses du Brésil, les favelles, etc., etc. Et alors là, ça produit une tension telle qu'un jour ou l'autre, ça éclate. Il y a la révolte des pauvres, et ça, toute l'histoire est là pour le dire. La révolte des pauvres, et ça fait des drames.
Et certains, certains dans nos sociétés occidentales ont érigé ce combat en principe politique. Ce combat, oui. cette révolution, cette lutte armée, a été érigée en système politique par certains d'entre nous.
Oui.
Je pense au marxisme, par
exemple. Ah oui, c'est ça, oui. Cette lutte des classes, oui.
Oui.
Ah oui, ben c'est pas la théorie de l'Église, oui. Eh bien, justement, l'idéal chrétien, ça ne peut pas être l'égalité. Entre personnes, elle n'existe pas. Nous sommes tous différents, et Dieu nous a fait tous différents. Bon. L'idéal, c'est la fraternité. Et par conséquent, ne jamais, jamais, jamais grimper sur l'échelle de la richesse sans tourner les yeux vers les derniers. Et toujours, toujours, toujours revenir aux derniers des derniers. Et c'est difficile, et c'est la tentation des chrétiens, toujours, n'est-ce pas ? Au long des siècles, on a créé des écoles pour les pauvres. Et puis, au bout de quelques temps...
C'était devenu des écoles pour les riches.
C'est des écoles pour les riches. On est coupé des pauvres. Et ainsi de suite, les missions, c'est la même chose, etc. C'est facile. La JOC, C'est la même chose, au départ, pour les ouvriers. Et puis, 10 ans après, 20 ans après...
Une certaine élite.
On se réunit entre groupes, puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'ouvriers parmi eux. Moi, j'exagère un petit peu. Mais c'est souvent comme ça, que ce sont des employés, des petits cadres, etc., des tout petits, n'est-ce pas? Alors, il faut tout le temps, revenir à la souche, aux pauvres, aux plus pauvres.
Faire le choix de la pauvreté, finalement.
Et s'enfoncer dans la pauvreté. Il faut qu'il y en ait qui le fassent. Mmh. Et il faut que tous regardent continuellement vers les pauvres pour dire où en sont-ils? Est-ce que je peux les aider? Comment pouvons-nous les aider? Alors, il y en a qui les aideront au maximum en venant au milieu d'eux, en allant avec eux. Et je pense qu'il y a tout de même beaucoup de religieux qui font ça aujourd'hui, religieux de religieuses, enfin, qui vont chez les pygmées, ou bien comme les petits frères du père de Foucault qui vont s'installer au milieu des pauvres.
Comme Mère Teresa, comme Sœur Emmanuel,
etc. Oui. Les plus pauvres, voilà, les slogans actuels. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et c'est chrétien, et c'est le témoignage que l'Église a donné aujourd'hui. Et il n'y en a pas d'autres qui le font. C'est pas les bouddhistes, c'est pas les hindouistes, c'est pas les musulmans. Il n'y en a pas d'autres qui le font. Regardons le monde. Il n'y en a pas d'autres qui le font. On le fait peu. Il y a des chrétiens qui donnent le témoignage contraire, c'est sûr, mais il y a des chrétiens qui donnent ce témoignage-là. Et on ne le voit pas ailleurs.
Il y a une parole évangélique qui est très troublante. C'est ce bonheur dans lequel les pauvres sont supposés être. Est-ce que vous êtes un homme heureux d'être pauvre, si, en autant que vous l'êtes?
Oui, ben hélas, je trouve que je ne suis pas très pauvre, mais enfin, étant donné ce que sont les pauvres, etc. Oui, je crois qu'il y a un bonheur. La richesse insultante occulte un certain bonheur. Il y a un bonheur très pur chez le pauvre, qu'on rencontre chez le pauvre, et qui est extraordinaire, un bonheur dans sa naïveté. Je pense à ce que raconte le père Arupé, l'ancien supérieur général des Jésuites. Quand il était au Brésil, il a été faire une grande conférence dans une favelle. Et il y a un pauvre qui, après la conférence, lui a dit « Ah, mon père, comme vous avez bien parlé, je voudrais bien vous remercier, vous montrer quelque chose. » Alors le père le suit. Et il va dans sa cahute toute cahotante, boiteuse, etc., faite de planches, des ouvertures, etc. Il le fait pénétrer. Et il y avait une grande ouverture, au fond, là, dans sa cabane. Et puis, un magnifique coucher de soleil. Regardez, mon père, comme c'est beau. C'est ce que je voulais vous montrer pour vous remercier. C'est superbe, n'est-ce pas? Alors, on ne voit plus que le cœur du pauvre. On ne voit plus ce qu'il donne. Le prix qui y est attaché, l'étiquette, etc., on ne voit plus que le cœur du pauvre.
Mais vous, je reviens à vous. Vous avez 70 ans, une vie de religieux, etc. Quelle est votre joie à vous?
À ma joie?
Oui.
Ah, ben, c'est d'être avec Dieu, de parler à Dieu, de laisser le Christ parler en moi. À Dieu, au Père. Ah oui, c'est... Et puis de le découvrir et de le chercher dans les autres, ce qu'ils peuvent m'apprendre du Christ et de Dieu.
C'est votre richesse?
Oui, je crois que c'est ma richesse.
Qu'est-ce que ça exigeait de pauvreté pour vous?
Ce que ça exige de pauvreté? Oui, ben, ça exigerait peut-être que je me ramasse davantage sur moi-même, peut-être, mais... Enfin, il y a une mesure à trouver entre revenir à son cœur et au Saint-Esprit qui a été répandu dans notre cœur, et comme dit saint Paul, et d'entendre le cœur du Christ battre en chacun de nous, et puis le contact avec les autres, parce que le Christ on le trouve aussi chaque fois qu'on voit un pauvre, chaque fois qu'on voit un homme, mais enfin particulièrement dans le pauvre, et particulièrement en chaque homme, dans ce qu'il a de pauvre en lui.
Aller vers le pauvre, et dans ce pauvre-là, anonyme, trouver la figure du Christ.
Oui, oui. Mais on ne le trouve pas dans n'importe quel pauvre, si j'ose dire. Parce qu'il faut un certain temps. Il faut le connaître. Le pauvre que je rencontre dans le métro, qui je donne une pièce ou n'importe quoi, c'est pas une véritable aumône, quoi. Il faut pouvoir parler. Il y a un don de parole qui est nécessaire, il y a un échange de parole qui est nécessaire pour trouver cela, pour découvrir le cœur du pauvre.
Donc l'aumône donnée du bout des doigts ne suffit pas?
Oh, elle peut être nécessaire, elle peut être ce qui est demandé toute la journée, quoi. n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas. Il faut justement, il faut un contact. Il faut un contact. Bon, c'est ce que veut Mère Teresa. On fait pas la charité ni par chèque interposé, ni anonymement au pauvre qu'on rencontre, puis hop, on passe. C'est ce que me disait Mère Teresa un jour. J'étais à Calicat dans son mouroir, et elle était penchée sur un pauvre mourant qui allait mourir d'ailleurs, et elle le caressait comme si elle pouvait lui rendre la vie à force de tendresse. Et puis elle me dit, mais regardez là-bas, cette couche qui est vide en ce moment, mais il y a un malade, enfin, qui vient de mourir, que nous avions ramassé. Et qui m'a dit, ma mère, j'ai vécu toute ma vie sur le trottoir comme une espèce de voleur cherchant la bouchée de riz à voler par-ci, par-là, la piécette à attraper. Tout le monde me passait à côté, me jetait ceci, me jetait cela, cherchait à agripper, à voler quelque chose pour manger. La société m'était ennemie et je n'avais que de l'adversité pour eux. Et puis, vous êtes venu, vous m'avez ramassé, vous m'avez aimé, vous m'avez aidé, vous êtes resté près de moi, et grâce à vous, je meurs comme un ange. C'est ce qu'elle m'a dit. Grâce à vous, je meurs comme un ange. Alors, elle me disait ça parce que elle m'avait dit, n'est-ce pas, je ne les distingue pas, que ce soit des chrétiens, des sikhs, des jaïnistes, des hindouistes, des bouddhistes, des musulmans, il y a tout, pour moi ce sont toujours les mêmes. Mais à chacun je donne le baptême de l'amour. Ah, qu'est-ce que c'est que le baptême de l'amour? Alors elle m'a dit ça et elle m'a dit, ben voilà, c'est ça le baptême de l'amour. Il nous aime, il se tourne vers nous et à travers nous, ben c'est Dieu qui voit se pencher sur nous.
Père Henri, je vous remercie.
Rappelons que le père Henri, qui est dominicain, vit très pauvrement dans un petit réduit à Paris. Il a 75 ans. Il a publié en 1986 « Vivre et combattre la pauvreté » aux éditions du Cerf, « La longue marche de l'Église » en collaboration avec Jean Chélini chez Bordas en 81, « L'autre, questions actuelles sur le mariage » aux éditions SOS en 76 et « Les difficultés d'aimer » au Cerf en 1969.